suis la pantaille. On les rois de la jungle s'aiment à visage découvert. Ton cœur est un continent à conquérir. Et ton torse est une savane où mes doigts courent dans la nuit. Et ton torse est une savane où mes doigts courent dans la nuit. Et ton torse est une savane où mes doigts courent dans la nuit.
Ce soir, au cabinet des banalités, François Provost, Raphaël Laverdière et Émile Lapointe vous parlent de la publicité.
Monsieur Juteux de McCain a la saveur de vrai jus de fruits concentré. C'est la saveur de jus de fruits de Monsieur Juteux de McCain qui plaît aux enfants. Une façon merveilleusement saine de fêter l'été.
Quelle saveur?
Orange.
Monsieur Juteux de McCain à cause du jus de fruits.
Wow! Ça, c'était une vraie bonne archive, en tout cas.
J'ai le goût de manger des Monsieur Juteux de McCain.
Un bon vieux. Saveur, oh, un bon vieux Monsieur Juteux de McCain.
Ils sont donc d'ailleurs répétés à multiples reprises.
Oui, oui, les fameux Monsieur Juteux, donc, qui étaient une friandise glacée à base de jus de fruits. Et là, on l'entendait publicisé par l'athlète olympique Elizabeth Manley. Qui était, vous me croirez peut-être pas, mais c'était une anglophone qui tentait de parler en français.
Ah, avec, oui, avec son français parfait.
Ben oui, son léger bonjour.
Mais le fait que ce soit... C'est, tu dis, c'est quoi une athlète olympique?
Oui, une patineuse.
Ah, une patineuse olympique. Ben, ça me donne l'envie d'acheter des juteux de McCain parce qu'évidemment, il doit avoir un effet de causalité entre manger ça et avoir du succès aux Olympiques.
Ben, pas juste ça, c'est que c'est une friandise glacée.
Ah, voilà. C'est bright.
T'sais, on le voyait pas, mais on peut s'imaginer la glace comme étant composée uniquement de Monsieur Juteux dans cette aréna.
À quelle saveur?
Mais orange.
Orange. Mais pourquoi on parle de ça?
Ben, c'est ça. Pourquoi on parle de ça, Raphaël?
Ben.
Parce que cette semaine, on vous parle de la publicité.
Ah, ben, tabarnouche.
Je peux-tu arriver pour expliquer le concept de l'émission? Donc, c'est pourquoi qu'on parlerait de publicité? Ouais, sous quel angle? Nous sommes le cabinet des banalités. Puis à chaque semaine, on révisite l'impact du quotidien dans notre vie. La dernière semaine, je ne sais pas vous en souvenir, mais on parlait de la vaisselle.
Mm-hmm.
Donc, un sujet qui semblait à première vue banal, mais finalement qui restait tellement de secrets. Et la publicité, c'est... On pourrait dire que c'est particulier parce qu'on vient d'écouter une publicité de McCain où que on est habitué à la publicité, on se fait pitcher plein d'affaires de même qu'on est habitué, mais quand on y pense, c'est tellement absurde. Tout ce qui se passe dans une publicité, c'est banal, mais c'est pas banal.
Effectivement. Effectivement. Donc, on parle de choses qui sont présentes dans notre quotidien. Puis quoi de plus présent que dans notre quotidien que la publicité? Justement, quand j'ai essayé d'ouvrir cet extrait d'archives sur YouTube, j'avais des publicités qui tentaient de franchir mon bloqueur.
Ben oui, je sais pas vous, les gars, mais moi, à part les publicités vraiment étranges et absurdes comme celle de Monsieur Juteux, moi, c'est souvent comme un angle mort un peu dans ma vision d'une publicité. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça fait que ça fait en sorte que ça fonctionne autant que ça nous rentre dans notre tête très profondément? Et si on compare les publicités d'il y a 50, 60 ans, ben là, on trouve ça drôle. On comprend que la publicité est adaptable et elle peut facilement être obsolète avec le temps. Et qu'elle évolue de façon très, très étroite avec la culture, les préoccupations d'une société, ce qui fait en sorte qu'une publicité d'aujourd'hui, dans 50 ans, ben ça ne fonctionnerait plus. On va être ailleurs complètement. Puis je me demandais aussi, moi, quand je pense à la publicité, on dirait que ça me fâche. Je me dis, je suis souvent fâchée quand une publicité qu'on entend trop souvent là, par rapport...
Ouais.
Quand on est sur YouTube, souvent, là, c'est tout le temps les mêmes, c'est très répétitif. On en vient à détester la publicité. mais est-ce que ça nous empêche vraiment d'acheter le produit, d'acheter le service? À mon avis, non. Et pourquoi? Est-ce qu'on est trop paresseux? Est-ce que la publicité ne nous dérange pas à un niveau assez profond? Est-ce qu'on voit ça comme quelque chose de complètement inévitable dans notre vie actuelle? Bien, c'est toutes des questions auxquelles on va essayer de répondre ce soir, les garçons.
Je partage ton sentiment envers la publicité. La répétition, c'est dérangeant, mais moi, il y a un aspect de la publicité qui me dérange, et j'ai souvent l'impression de me faire prendre pour un imbécile. Et moi, j'ai cette fameuse tendance. Moi, je n'écoute presque plus la télévision, mais j'ai cette mauvaise tendance de, en face de la télévision, lorsqu'une publicité qui passe, ma copine elle pourrait témoigner à ma faveur, mais elle dirait à quel point je suis dérangeant, parce qu'à chaque publicité, je fais juste comme révéler toutes les incohérences qui, en fait, je fais juste dire que je vois plein d'incohérences puis plein de niaiseries à travers les publicités. Là. Ouais, donc, je le faisais tout à l'heure, vous aviez un petit aperçu, mais c'est, il y avait une publicité qui c'était une publicité sociale qu'on entendait dans les studios, mais c'était une personne de notre tranche d'âge qui parlait de conduire avec les facultés affaiblies. Et là, je fais juste dire « Ah, ben si quelqu'un de ma tranche d'âge le dit, je vais sûrement le faire. » On est la même personne.
Ouais.
Mais c'est toujours s'amuser à jouer avec certains raccourcis mentaux qu'on exploite dans les publicités. Même si la publicité a quand même, dans ce cas-ci, avait un bel objectif.
Oui, exact. Des raccourcis ou des associations que tu sont tellement flagrantes, tu dis, mais ça peut pas fonctionner, on n'est pas tata, mais qu'est-ce qui fait en sorte que ça marche finalement, ces choses-là? Moi, je trouve ça très intéressant. Puis parler de pub, ben, ça va nous amener à reparler de quelqu'un dont on a déjà discuté brièvement, mais que ça valait la peine qu'on se repenche là-dessus. On en a parlé lors de notre première émission, qui était sur le déjeuner. On s'intéressait à qu'est-ce qui fait en sorte qu'on mange pour le déjeuner, entre autres. Puis ça nous a amené à parler de M. Edward Bernays, qui est considéré comme le père des relations publiques aux États-Unis surtout, mais aussi dans tout le monde nord-américain. C'était le neveu de M. Freud, comme vous vous rappelez peut-être. Lui, il a grandi aux États-Unis, par contre, Bernays. Il a vécu entre 1891 et 1995. Et si vous savez compter un petit peu, ben ça fait très, très vieux. Ça fait 103 ans.
Passé le 100 ans, là, ça commence à faire longtemps que tu es vivant. Ouais.
Il est mort l'année que je suis né. Peut-être que... Croyez-vous à la réincarnation?
Ben, t'es en train d'essayer. T'as pas essayé de rien nous vendre depuis le début de l'émission. Non, fait que
ça doit pas être moi. Ok, c'est bon.
Non, je pense qu'il a assez étendu sa sagesse pendant toute sa longue vie.
Certains c'est diront correct. Sagesse, d'autres diront arnaque, là, mais voilà, c'est comme on veut.
On va vous laisser juger à la maison. Donc, sa définition des relations publiques, à lui, il disait non, c'est pas des techniques de charme, c'est pas des techniques de manipulation de la presse non plus. Il parlait d'une relation donnant-donnant, un two-way street, où on éduque, on informe et on persuade le public d'accepter des biens, d'accepter des idées, des concepts ou quoi que ce soit qu'on essaye de lui faire accepter. Et moi, je trouvais ça très intéressant de voir que dans cette mini-citation de lui, il utilise « éduquer » et « persuader » dans la même phrase, des termes qui sont pas contraires, sont pas antinomiques, mais sont très différemment connotés. Ça nous donne un petit aperçu rapide de comment il pensait les relations publiques et la publicité, ce monsieur-là.
Mais oui, parce que « éduquer » est quelque chose de très vertueux, alors que « persuader », la persuasion, c'est très sournois. C'est on ça. Dirait qu'on se fait manipuler. Là.
Exact. On s'imagine que la personne qui nous persuade essaie d'arriver à certaines fins qui sont peut-être pas pour notre mieux à nous. Bref. Les campagnes qui ont fait sa renommée à Bernays, il y a eu la campagne qu'il a faite avec Ivory. Vous connaissez les savons Ivory? En tout cas, à l'époque, on est à la milieu du 20e siècle. Les gens de chez Ivory sont venus le voir inquiets, se sont dit « Les enfants n'aiment pas le savon. Ils se font laver le visage avec le savon par leur mère. Ça va dans leurs yeux, ça leur fait mal. Ils développent une aversion au savon. Ils n'en achèteront pas quand ils vont être adultes. » En tout cas, il y avait peut-être un petit raccourci là-dedans, mais c'était ça la crainte. Lui, il s'est dit « Parfait. » On va organiser des concours de sculpture dans le savon, dans les écoles, donner des prix, tout ça, encourager les enfants à étudier leur créativité. Il était allé au préalable voir des études qui parlaient de la créativité à l'enfance, si c'était quelque chose qui allait fonctionner ou pas. Il s'est dit « Parfait, entre tel âge et tel âge, la créativité est tout indiqué pour faire quelque chose comme ça, on va faire ça. Ça a très bien marché. Puis c'est quelque chose qui est resté des années après la fin des concours Ivory. Ça continuait dans les écoles. Donc c'est intéressant de comment il a créé une autre...
Quelle étrange campagne publicitaire quand même. C'est très far-fetched, mais que ça, le fait que ça ait marché.
Une association complètement différente avec les produits.
Mais d'autant plus que ces savons-là, il faut bien s'y procurer. Là, donc, on va cogner aux portes de Ivory pour se procurer les savons. Donc, c'est sûr que c'est autant si on essaye de convaincre les enfants que oui, les savons, c'est gentil.
Puis en même temps, on vend des savons.
Mais c'est ça. C'est gagnant pour eux. Ouais. Pour tout le monde, là, mais non.
C'était très intelligent. Puis une autre campagne qu'il a faite, qui est peut-être un peu moins propre, c'est ce qu'il a fait avec les cigarettes Lucky's. Dans les années 20, c'était tabou pour les femmes de fumer. Et les compagnies de tabac se rendaient compte de tout le marché qui n'était pas mis à profit, donc toutes les femmes. Et Bernays a réussi à capitaliser sur les mouvements féministes de l'époque, puis transformer la cigarette en un symbole féministe qui symbolisait la liberté, l'anticonformisme. Donc, il a rendu ça cool pour les femmes de fumer.
Ouais. Alors, on dirait que je ne peux pas m'empêcher de... Je n'ai pas de réponse, mais me demander pour tout ce qui est des vagues de mouvements comme ça, sociaux, s'il n'y a pas quelque chose qui ferait l'équivalent comme aujourd'hui, mettons, une nouvelle mode ou une nouvelle vague de féministe ou écologiste ou je ne sais pas, qui aurait sa marchandise propre et qu'on ne le voit pas. On dirait que j'ai peur actuellement.
As-tu quelque chose en tête?
Non, j'ai pas d'idée, mais j'ai peur justement que ça va être dans quelques années. On fait « Oh mon Dieu, c'est tout ce temps-là, on portait ces lunettes-là » puis c'était pour associer à un mouvement de pensée.
Ouais,
c'est peut-être,
clair.
Je sais pas. Là.
Ben, l'esprit du greenwashing que beaucoup de compagnies font.
Absolument.
Je sais pas trop comment dire ça. Là. L'équivalent du greenwashing, mais avec les causes sociales. Là. On pense à, par exemple, Nike qui a représenté Colin Kaepernick, là, qui s'était agenouillé pendant l'hymne national pour lutter contre le racisme, là, qui avait été très critiqué. Puis la marque Nike, tout de suite après, s'était associée avec lui dans un esprit de genre... comme utiliser ce capital social. Donc,
Ou encore plus proche de chez nous, pendant la pandémie, Bell qui tout d'un coup a appelé vos proches, vous... Je ne sais pas ce qu'il faisait, il facilitait le fait de pouvoir téléphoner à ses proches. En tout cas, ils ont capitalisé là-dessus d'une manière très agile.
Et d'un autre point de vue, le point de vue de l'entreprise, c'est aussi... C'est sûr qu'ils ont avantage à le faire, mais en même temps, il y a sûrement, parmi ceux qui le pensent aussi, une idée de « Ah, ben on va vraiment servir une cause. » Donc, ça peut être vu de différentes façons, mais c'est surtout quand on regarde la définition des relations publiques comme étant persuadée, ben là, tout de suite, on voit que la fin et le moyen, là, c'est pas la même chose. Donc, ça fait en sorte qu'on a tout le temps ça en tête, qu'on se dit « Ben, quand qu'une compagnie fait des relations publiques, on sait qu'il y a cet intérêt-là au final, en tout cas, si on se fait la définition, mais on espère que les gens qui nous font de la publicité le font pour notre bien.
Puis si on extrapole ça juste un petit peu plus loin, on se dit, est-ce que les compagnies, les entreprises devraient faire dans le politique? C'est ça la question derrière ça. Bref, on ne répondra pas à ça aujourd'hui.
Question
ça, c'est
très
certain.
Légère.
Donc, je vous parlais des campagnes que Edward Bernays a conduites dans sa carrière. Il y avait les savons Ivory, entre autres, les cigarettes Lucky's et le fameux déjeuner d'œuf et bacon. On vous en a parlé il y a quelques semaines. C'est à cause de lui qu'on mange ça. C'était pour faire vendre plus de bacon. Donc, il a fait toute une petite... Vous irez écouter notre épisode. Il est disponible en podcast.
Absolument.
Yes, cool.
Un bel épisode.
Belle publicité.
Je fais dans le politique.
Ouais, tu veux nous persuader, là.
Donc, qu'est-ce qu'a fait, lui, Edward Bernays, pour se différencier de ce qui se faisait avant? C'est que lui a vraiment modifié la manière de concevoir les tactiques de persuasion dans les campagnes de publicité, mais également dans les campagnes politiques. Il a utilisé la théorie psychanalytique de Freud, son oncle, dans les stratégies des campagnes, en utilisant l'idée qui a été théorisée par Freud que les gens sont motivés par des désirs inconscients. Donc ça, vous en avez sûrement entendu parler dans vos cours de psychologie 101. il a ajouté à ça des connaissances associées aux recherches de Gustave Le Bon sur la psychologie du groupe et de M. Wilfred Trotter sur l'instinct grégaire. Donc, il y avait beaucoup à apprendre sur la psychologie de groupe. Vous allez voir, c'est quasiment effrayant.
Rapidement, l'instinct grégaire, on pourrait dire que c'est le sentiment d'appartenir à un groupe.
C'est ça.
Ce besoin d'appartenance.
Oui, si on le traduit très crudement, ça ferait comme l'esprit de troupeau. C'est ça.
Mais d'ailleurs, l'esprit de troupeau, dans la psychologie de groupe, me semble, Gustave Le Bon, me semble, il y avait une vision très, justement, troupeau, très les masses, les foules qui deviennent un peu cons quand ils se regroupent.
Exact.
Mais, me semble, c'était un peu dans ses idées.
Exact.
Et le fameux terme les moutons, là, qui reflète bien l'esprit de troupeau. Là.
C'est vrai, puis Bernays a fait très bon usage de ces théories-là, notamment dans son livre Propaganda, en 1928, il en parle, il dit « Ceux qui manipulent la psychologie du groupe constituent une gouvernance invisible qui est le réel pouvoir qui contrôle un État. » Donc ça, c'est effrayant, il avait compris. Et donc, la psychologie du groupe, on en a parlé un peu, ça s'intéresse à la manière dont les pensées, les émotions, l'individualité de l'individu sont modifiées lorsqu'il fait partie d'un groupe, et ça de manière très marquée, parce que le groupe a des caractéristiques mentales qui sont différentes de celles de l'individu. Parce que dès qu'on s'identifie à un groupe, qu'on soit physiquement avec eux ou non, ça n'a pas d'importance, on peut penser à tous les groupes sur Internet de gens qui se rencontreront jamais, mais pourtant qui font des groupes très forts, que ce soit idéologique, social, n'importe quoi. Puisque en groupe, la pensée critique sur les motivations sous-jacentes, inconscientes, est presque impossible pour l'individu. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il subordonne l'auto-analyse et la quête de vérité en faveur de la cohésion sociale. Donc, en gros, ton esprit critique, ton individualité passe après le maintien, la survie du groupe, si on veut. Puis ça, c'est pas fou quand on pense que le groupe, ben en fait, l'humain, l'être humain, pour survivre, a misé sur la force du groupe depuis que l'humain est sur Terre.
Depuis que l'homme est homme.
Depuis que l'homme est homme, exactement.
Et probablement également des certains mécanismes de « on confie la critique à quelqu'un du groupe ». Parce qu'on voit ça souvent, en fait, le groupe a toujours besoin de se justifier dans ses idéologies puis dans ses croyances, mais si notre esprit critique est comme supprimé, bien souvent j'ai l'impression qu'on va quand même regarder l'information, l'analyse de quelqu'un qui va nous dire en fonction quelque chose qui va nous réconforter dans nos pensées, mais qui fait en sorte qu'on pourrait dire, on a peut-être une impression de, ah, ben voici, la pensée critique, elle est là, je viens de m'informer à quelqu'un qui vient me dire, hey, inquiète-toi pas, tu as raison.
Ouais.
Donc, il y a quand même le processus de recherche d'information est là, mais l'esprit critique, finalement, où est-elle dans tout ça?
On la perd, exactement. On devient vulnérable en tant qu'individu quand on tombe là-dedans. Et donc, à la manière de cet effet de groupe-là qui nous supprime un peu l'esprit critique, Bernays croyait que c'était possible de concevoir la propagande qui contournerait les facultés rationnelles de l'individu, la conscience de l'individu, pour atteindre directement ses émotions, ses désirs réprimés, sans qu'on s'en rende compte. Donc, c'est grave. Là, on est dans la manipulation... de la conscience.
Est-ce qu'on parlait justement que certaines... on avait parfois l'impression qu'on se faisait prendre pour des imbéciles, mais peut-être qu'il y a quelque chose de... Mais c'est pas grave. Là. On parle pas à ta raison, de toute façon.
C'est ça, exactement.
C'est pas ça qu'on vise. On vise tes désirs refoulés, que ce soit qui vont te manipuler par en dedans.
Je pourrais m'acheter un bateau.
C'est ça. C'est pour ça que des fois, la publicité nous semble tellement absurde. Tu écoutes ça avec ta raison critique, il y a rien à comprendre pour elle, parce que, justement, le contenu, il va bypass, si vous me permettez, comme prendre un raccourci, sauter par-dessus ta raison critique, se rendre directement dans tes émotions. Donc, t'es vulnérable dans ton petit mou intérieur, si on veut. Voilà. Donc, c'est ça sa contribution au domaine des relations publiques, en gros. Parce qu'avant, si on regarde les publicités, on peut voir que les publicités disaient aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, vous voulez laver plus blanc, vous voulez du bon savon, vous voulez une bonne voiture. Mais depuis Bernays, sa contribution, entre autres, ce que ça l'a fait, c'est que maintenant, on va au cœur de ce que les gens désirent sans qu'ils s'en rendent compte.
Vous voulez de l'appartenance sociale.
Exactement. Vous voulez être aimé, vous voulez... voulez vous accomplir dans la vie, mais vous avez besoin de la voiture, vous avez besoin de ces céréales-là. Donc, on est dans l'association complètement farfelue. C'est un délire, mais ça fonctionne. Et on sait qu'il peut y avoir des déboires incroyables par rapport aux théories du groupe. Machiavel a beaucoup pensé à la théorie du groupe et lui, il s'intéressait à la séparation du groupe pour affaiblir un État, affaiblir une communauté, une société. Parce qu'on sait qu'entre groupes idéologiques, entre autres, le dialogue est extrêmement difficile. Les autres groupes deviennent une menace. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fameux « nous versus eux ». C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en anthropologie parce qu'un groupe va prendre toute sa force dans son identité. Et s'il peut s'opposer à un autre groupe ou d'autres groupes, ben, cette identité-là est fortifiée. C'est comme un rapport qui se crée autour d'eux. Mmh. Ça fait en sorte de maintenir la cohésion dans le groupe.
Et ça aide à une certaine définition du groupe. Quand on va juste y penser par rapport à un exemple facile, mais en politique, la gauche versus la droite, quand on y pense, là, c'est peut-être un peu taoïste comme façon de penser, mais s'il n'y avait pas notre opposé politique, ben ça ferait aucun sens de se définir en tant que groupe. Ouais. On pourrait pas dire « je suis de gauche », il n'y aurait pas de personne de droite.
Ouais, exactement.
Donc, y a quelque chose que je crois, il y a comme une dynamique qui est conflictuelle, puis peut-être qui est un peu nécessaire pour... Ouais. Pour la cohésion de groupe, c'est qu'on mm-hmm. a besoin de quelque chose ou comme certaines personnes auxquelles affronter, comme, parce que c'est elle qui crée le groupe, c'est ça?
Exactement. C'est ça que j'entendais dire aussi par rapport à est-ce que c'est important d'avoir des pays, par exemple? Donc voilà, l'explication est là. On a besoin d'une identité autour de quelque chose pour pouvoir avancer vers certains buts. Si on n'a pas d'opposition, on dirait qu'on... on n'avance nulle part. En tout cas, bref, on est dans les plus grandes théories là, sociétales. Mais bref, ça, l'instrumentalisation des groupes, c'est quelque chose qui est très utilisé aussi en publicité. On va exotiser certains groupes. Notre culture, par exemple, on peut penser à des tas d'exemples par rapport, par exemple, aux Autochtones, la référence aux traditions autochtones, la médecine traditionnelle pour vendre des produits, pour vendre
la
des
côte.
Médicaments.
Oui, j'ai pensé
exactement.
À la même chose.
Exactement. On mise sur le pouvoir exotique de la chose, si on mm-hmm. veut. Donc, c'est ça, on instrumentalise ces savoirs-là, ces représentations-là depuis très longtemps. C'est pas nouveau. On parle de la fin du 19e siècle, quand les avancées de la médecine ont permis l'essor du marché pharmaceutique. Bien, on voit apparaître de nombreuses publicités qui ont très mal vieilli, ma foi, encore pire que celle de Lakota, qui passait encore quand on était jeune. On avait 10, 11, 12 ans, ça mais passait oui. encore à la télévision. Je sais pas si ça passe encore, là, mais...
Je serais bien surpris.
Bref, même, tu sais, juste 10 ans après... C'est fini, on ne peut mm-hmm. plus parler de ça. Et à cette époque-là, on est à la fin du 19e, on voit aussi la figure de la femme hystérique qui est en proie à sa condition de femme, qu'on doit soigner à coups de médicaments, d'électrochocs. Et on voit qu'historiquement, la publicité est énormément axée sur les femmes, puisque c'est celles qui achètent les biens de la maisonnée, qui achètent les médicaments, qui soignent la maisonnée, celles aussi sur qui reposent presque tous les impératifs de beauté, de propreté, de perfection. Mmh. Il faut qu'elle soit attrayante, il faut qu'elle soit désirable afin d'être un bon parti. Et là, je vous fais une petite aparté. Je suis allée voir la définition de bon parti dans le Wiktionnaire. On parle d'une personne que son patrimoine peut rendre attirante du point de vue du mariage.
Et
c'est pas du tout une réflexion nouvelle de penser que le patrimoine, au sens très large où il est employé ici, signifiait surtout à l'époque des choses très différentes pour les hommes versus les femmes. Donc, je trouvais ça intéressant. Les femmes, donc, se devaient de refléter une perfection associée à une féminité qui était très précise, très balisée dans la publicité. Et la publicité, ici, est un reflet amplifiant de la société de l'époque, mais encore aujourd'hui, elle reproduisait des tendances, elle les renforçait. Et aussi, ce qui est dangereux avec ça, c'est que la publicité a un réel pouvoir de banalisation, de normalisation, qui peut mener à des déboires importants dont les effets vont se réverbérer sur le long terme. Donc, je pense qu'on va aller prendre une petite pause. Non, on prend pas de pause. OK, j'ai annoncé
puis
trop tôt.
Ajouter quelque
oui,
chose.
Vas-y, François.
J'aimais la façon que tu l'as écrit, que tu l'as dit, reflet amplifié de la société qui, en même temps, peut expliquer un peu pourquoi parfois on voit que c'est absurde. La publicité devient un peu tellement grosse, tellement grossière qu'il en devient presque absurde parce qu'elle nous offre une caricature de nous-mêmes, on dirait, tellement qu'on veut s'adresser aux gens de actuels, les gens contemporains, et on veut comme trouver des codes,
ouais.
mais on veut comme trop en faire. Fait que là, c'est comme, vous êtes de même, et c'est très, très stéréotypé. Là.
Vous êtes comme
puis
ça.
Ça nous saute aux yeux 50 ans après.
Et ouais, c'est ça. Ça fait vraiment une sorte de caricature.
Ouais, un gros miroir horrible. Puis justement, par rapport à ça, on a des exemples à la poêlée. Je voulais dire poêlée, c'est un petit jeu de mes années. Okay. Juste après la pause, je vais pouvoir vous faire part d'un petit extrait vraiment intéressant à ce sujet-là.
Donc, on va écouter quelques publicités et on va se retrouver après
ironie.
Tout ça.
Yay!
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Bord de la réveilleur Saint-Charles, boisé sur le slalom, mes zigzags.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salon attachant, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur Chiz 94.3.
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h.
Chiz 94.3.
D'écoute!
Look at your hair. Look at that blouse. And the way that skirt hangs. And those socks. You don't seem to be exactly the type to make this guy behave like a human being. Let's start all over again. Oh, brother. Oh, brother is right. Look at that hair, that skin, that mouth. And now look at that blouse. And now look at the skirt. And the socks. Thanks a lot for helping us prove a point.
Wow, OK, j'avais le visuel, donc, moi, là, c'était... Ouais,
je vous explique ce qu'on entendait ici. Donc, on est dans les années 40-50, je n'ai pas l'année exactement. Là. Donc, ce qu'on voyait, c'est une jeune fille, puis c'est drôle, elle a un livre dans les mains. Elle a les cheveux, je dirais, naturels, ils ne sont pas nécessairement très coiffés. Elle a une manche remontée, l'autre baissée, les chaussettes un petit peu croches, tout ça. Et le narrateur dit, regarde comme elle est comme mal attriquée. Et elle a,
il est terrible.
C'était comme... elle fait pas que... Voyons, comment c'était dit? C'était tellement horrible.
Ah, ouais, il dit, t'as pas l'air de quelqu'un qui fait en sorte de... Comment il dit ça? De faire en sorte que l'homme se comporte comme un être humain.
Ouais, human being.
Ouais.
C'était quand même un bien cuit de cette femme qui avait de l'air, je confirme, visuel à l'appui.
Ouais.
Avait de l'air juste d'une fille.
Oui,
normale.
Elle avait complètement normal. Elle lisait son livre. Et juste après, il montre, c'est comme ça qu'elle devrait être. Son livre a disparu.
Puis elle a un peu de
maquillage.
Elle
est maquillée. Et... ses cheveux sont bouclés. Tout est bien étudié, les manches sont à la bonne longueur, les chaussettes sont remontées, la jupe, tout est parfait.
Seigneur.
Voilà. Et là, l'homme la regarde et dit « Oh, brother! » Ça, c'est de mon goût. Ça. Là, je me comporte comme un être humain. Je trouvais ça horrible. J'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi. La responsabilité qui est mise sur la femme de faire en sorte que l'homme se comporte d'une manière saine et non pas comme quelqu'un qui ferait n'importe quoi. Puis on se dit, oh, c'est vieux ça, ça existe plus, c'est de la vieille pub d'il y a 60, 70 ans.
C'est déjà pas si tôt que ça, là, ça fait... Je veux dire, ça fait pas longtemps.
Ça fait pas si longtemps. C'est horrible. Mais on se dit, mais ça se peut pas, quelque chose comme ça. Est-ce que vous connaissez la Camille Secret, les gars?
Non.
C'est, tu sais, le genre de pub qui passe des infos publicité, le genre de truc qui passe en boucle tard le soir, puis que tu te dis, oh my God, peut-être si j'étais sous, j'achèterais ça. Mais là, c'est pour la Camille Secret, qui est, imaginez, une espèce de triangle de tissu qu'on s'accroche après les bretelles du soutien-gorge pour faire comme si on avait une camisole pour cacher le décolleté. On n'en a pas. C'est juste un triangle de tissu qui est caché sous nos vêtements, qui fait en sorte de rendre le buste un peu plus pudique pour éviter que des regards tombent dans son décolleté, pas attirer trop, c'est ça, de commentaires, de regards désobligeants.
Oh,
et dans la publicité, on voit la jeune femme qui est au bureau avec son chandail préféré, très décolleté, et que le patron regarde dans sa poitrine plongeante. Et là, le narrateur, qui est un homme, bien sûr, dit « Vous voulez éviter qu'on regarde votre poitrine, vous n'êtes pas habillé convenablement pour le bureau, eh bien, rien de plus simple. Mettez votre Camille Secret pour cacher votre pudeur. »
C'est pas le problème des pervers, c'est votre problème d'acheter
exactement
un produit.
Responsabilisez votre poitrine sauvage, les femmes. Sachez quand vous vêtir. Donc,
je comprends maintenant pourquoi tu as une animosité envers la publicité.
Ouais. Oui.
C'est super.
Ah, bon, ça, c'était des exemples assez frappant, mais le fait est que ça peut prendre toutes sortes de formes aujourd'hui. Notamment, on peut servir des peurs des gens, la peur de vieillir, la peur de mourir, de grossir, mais également protéger sa famille, la peur que sa famille soit pas en sécurité, préserver leur santé, leur bien-être. N'est-ce pas, Émile?
Ben oui, parlant de préserver la santé et la sécurité de votre famille, saviez-vous que des millions d'acariens sommeillent dans votre matelas en tout temps? Ces acariens peuvent provoquer toutes sortes de réactions allergiques. Nous avons donc le produit parfait pour régler ce problème. N'attendez pas la fin de cette offre limitée. Appelez tout de suite.
Oh my God, j'en veux. Je suis pas allergique aux acariens.
T'as oublié de mentionner le numéro. Là. J'ai mon seul dans la main, mais j'ai pas le numéro. Là.
Mais oui, le numéro, c'est facile. C'est le 1-2-3-4-5-6-7. Composez maintenant 1-2-3-4-5-6-7.
Donnez-moi-en deux.
Donc, vous aurez reconnu de mon humble voix de publicitaire amateur que j'imitais ce qu'on appelle des infos publicités. Donc, vous avez sûrement déjà croisé ce genre de publicité un petit peu étrange, on va se l'admettre, là, qui passe régulièrement à la télé ou qui deviennent virales en ligne. On pense d'ailleurs au flex tape dans ce cas-là.
Les trucs qui ont l'air un peu d'un rêve de fièvre.
Oui, exact.
Mais bien dit.
Ils deviennent virales à cause de leur dynamisme, je dirais, explosif et les produits assez bizarres qu'elles tentent de nous vendre parfois. Donc, elles ont plusieurs choses en commun. Là. J'ai sorti ça moi-même. Des personnages qui sont souvent maladroits.
Mm-hmm.
Un animateur qui est surexcité. Bonsoir et bienvenue! Ce genre d'animateur-là. Là. Et des problèmes dont on ignorait souvent l'existence avant de voir cette publicité-là.
Absolument.
On parle d'ailleurs souvent de ce qu'on appelle des first world problems ou des problèmes du premier monde. Donc, une petite définition de dictionnaire ici, c'est certains de ces problèmes-là qui sont du premier monde. Ils peuvent être perçus carrément comme dérisoires ou futiles. D'utiliser cette expression-là aussi, on l'entend souvent un petit peu comme un raisonnement fallacieux parce qu'on compare avec ce qu'on appelle des vrais problèmes, entre guillemets. Donc, mettons que tu as un problème, ton char marche mal, si quelqu'un te dit « Ouais, gros problème, il y a des gens qui n'ont même pas de char en Afrique », ben ça serait une manière de l'utiliser de manière fallacieuse.
C'est mal utilisé. Okay? On parle de des choses beaucoup plus triviales, beaucoup plus... Okay.
Vos sourcils ne sont pas totalement droits.
C'est ça.
Plus ça devient comme catastrophique. Là.
Exact. Ça, c'est des vrais problèmes du premier monde. Mm. Exactement. Donc... ces produits-là, justement, peuvent nous sembler futiles au point où vous êtes probablement posé la même question que moi. Y a-tu vraiment quelqu'un qui achète ces bébelles-là?
Oui, je me suis souvent posé la question.
Des bébelles comme les pajama jeans, qui sont des pantalons de pyjama en jeans flexibles. Oui, c'est vrai. Ou les boobs in a box, qui sont des...
Les boobs in a box, j'en ai trois à la maison. Pour comment je me sens, mes différents boobs.
C'est ça, pour ajuster. C'est des pour vous éclairer un peu, là, c'est des espèces d'accessoires en silicone qu'on met sous les seins pour redresser et donner une forme... plus, on va mettre ça en gros guillemets, radiophonique, intéressante à vos seins à la maison. Donc, c'est ça, les boobs in a box.
J'aime l'utilisation du terme bébelle qui est vraiment le meilleur terme.
C'est vraiment des bébelles.
Ce n'est pas très soutenu comme langage, mais c'est des bébelles dans le sens des choses qui sont matérialisées, puis on se demande comment ça a pu passer le processus pour que ça devienne un produit.
Mm-hmm. Mais justement, quand tu dis ça, j'entends que tu es d'accord avec moi de te poser la question... Qui achète ça? Y a-tu du monde qui achète ça? Mmh. Puis je me suis posé souvent cette question-là. À chaque fois que j'ai vu une publicité comme ça, je me suis posé cette question-là. Mais apparemment, oui, parce que selon les ventes qui sont faites par la compagnie spécialisée en infopub qui s'appelle Telebrand, les mini-escaliers pour permettre à votre vieux chien de monter sur le lit, 30 millions de dollars en vente.
Mmh.
La loupe lampe de poche de la taille de votre carte de crédit pour vos yeux vieillissants, 30 millions de dollars encore une fois en vente. C'est des gros profits, là. Puis une lampe pour les dents qui utilise les rayons UV pour blanchir vos dents et enlever les taches, 40 millions de dollars. Chacun de ces produits-là rapporte des dizaines de millions de dollars, les produits qui pognent, bien entendu. Et tout ça, c'était en date de 2007, parce que j'ai pas pu trouver des chiffres plus récents, là. La compagnie existe encore. Mais imaginez aujourd'hui, là, ça continue à vendre, ces produits-là. Donc, juste pour vous mettre un peu de contexte, Telebrand, que je mentionnais, c'est la compagnie qui possède la fameuse marque As Seen on TV, qu'on voit dans les dépanneurs, les Walmart, les épiceries. Donc, tous ces produits-là, chamois, tout ça, là, que vous voyez dans les épiceries As Seen on TV, là, c'est Telebrand qui les possède. Donc, c'est ça. Ces compagnies-là, c'est très particulier l'histoire des infopubs parce que ces compagnies-là ont réussi à prendre leur envol parce que le gouvernement de Ronald Reagan aux États-Unis a levé les restrictions qu'il y avait sur les nombres de minutes de publicité par heure et ce, en 1984. Donc, ce qui est arrivé après ça...
C'est un peu ironique avec l'année.
Oui, 1984, c'est ça, je me suis dit aussi en lisant l'information.
Ah mon Dieu, j'avais pas pensé.
Ouais, oui, absolument. On fait référence ici au livre de George Orwell, très joyeux et aucun contrôle de la population dans ce livre-là. C'était grâce à ça le début de l'infopub comme on la connaît aujourd'hui. Donc, aux États-Unis, pour vous donner une idée, c'est des messages publicitaires qui vont jusqu'à 2 minutes. De la shot. Pensez-y un peu, là. 2 minutes
c'est
sans
long.
Arrêt de publicité.
C'est une
là.
Chanson.
Regardez, je vais regarder mon timer. Je vais vous dire quand ça va faire 2 minutes. Je vais continuer à parler. Là.
Mm-hmm.
Puis, où c'était carrément des fois des shows de 30 minutes pour présenter des produits là, qui font monter des gens sur la scène. Ah, venez essayer notre produit. 30 minutes là, pour vendre des produits. C'est sûr que ça passe tard le soir, souvent. Là. Mais quand même, quand on y pense, 30 minutes, que le focus entier du show, c'est de vendre des objets, là, c'est beaucoup, beaucoup de contenu publicitaire condensé. Puis il n'y a pas de pause publicitaire pendant ces shows-là.
Qui pourrait décortiquer les pauses publicitaires?
Tu coupes ta pause publicitaire avec d'autres pubs, ça serait quand même pas pire.
Ça devient très méta, ça devient très Inception. Un rêve dans un rêve, là, c'est une
exact.
Pub dans un pub dans une pub.
Mais derrière tout ça, donc ces infopubs-là existent, il y a un principe quand même simple. Donc, tu as ces compagnies-là comme Telebrand, parce qu'il y en a plusieurs, qui se promènent dans des expositions d'inventeurs et d'inventions et des centres commerciaux. Ils enrôlent les entrepreneurs et les inventeurs pour publiciser leurs produits. Donc, on espère que ces idées-là vont devenir vendeuses, mais des fois, ils proviennent aussi de l'interne. Hein. Je dis qu'ils visitent tout ça, mais c'est ça. Des fois, ils vont récolter ça à l'interne. Et les compagnies d'infopub, ensuite, ils financent des compagnies, des campagnes de publicité, des fois à l'échelle nationale, des fois à l'échelle locale, ça dépend. Et là, quand on voit que, mettons, on finance une campagne de publicité pour le Michigan, on va dire, puis là, on voit qu'au Michigan, en 2 jours, on a réussi à vendre 100 000 exemplaires. À la grandeur du Michigan, là, c'est quand même beaucoup d'exemplaires. Fait qu'on se dit, OK, on va mettre de l'argent là-dedans, puis on va voir si ça pogne. Puis ils vont mettre de l'argent jusqu'à temps qu'ils pognent comme le cap de limite pour vendre le plus de projets d'objets possibles avec un investissement minimal, dans le fond. Fait que des fois, on peut aller jusqu'à investir des dizaines de millions de dollars pour... ça vient de faire 2 minutes, en passant. Si je voulais vous donner une idée de 2 minutes, là...
C'est long.
C'est long, là. C'est très long. Une pub de 2 minutes, c'est long. Fait que...
Il y a le temps de se passer beaucoup de choses déroutantes en 2 minutes.
Oui, absolument. Donc, c'est ça. On investit dans les produits qui nous semblent encourageants, jusqu'à ce qu'on pogne le cap, puis là, on peut investir jusqu'à des millions de dollars pour publier quelque chose comme le Boobs in a Box. donc, toutes ces compagnies-là, c'est une machine. qui est construite autour de l'infopub pour faire du marketing que je dis moi-même, un marketing contagieux. Donc, le but ici, là, c'est vraiment là, que tout le monde en parle et que tout le monde veuille en acheter le plus vite possible et le plus possible. C'est une machine qui fonctionne sur une base de répétition. On en parlait au début de l'émission, de la répétition. Et d'un autre terme que j'utilise, je vais le comment on dit ça déjà?
Te l'approprier?
Me l'approprier, non, mais quand je vais le breveter, le terme de la prédation publicitaire. Oh. Nice. Donc, la stratégie, c'est de publier le plus d'annonces possible en espérant qu'un petit nombre explose. Donc, ils publient toutes sortes de gadgets super bizarres, puis on n'a même pas idée à quel point ils en publient, parce que je me souviens, je lisais là-dessus, puis ils nommaient des produits que j'avais jamais entendu parler, puis il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a seulement quelques-uns qui réussissent à exploser. Et ceux-là, qui explosent, je vous le disais tout à l'heure, ils peuvent rapporter des millions et des millions de dollars en profit. C'est épouvantable comment les gens se l'arrachent. Ça fait boule de neige quand on voit que ça marche.
Et étrangement, la manière que tu le disais, j'avais quasiment l'impression que c'est plus le consommateur qui pourrait exploser. La stratégie publique le plus d'annonces possible pour que j'espère qu'un petit nombre explose. Mais en même temps, je voyais que ça pourrait faire du sens parce que de me faire bombarder de publicité.
T'as envie d'exploser.
Oui, je pense que j'aurais
le moi, être américain et écouter la télé, je pense que j'exploserais. J'aurais de la misère à rester calme avec tous ces contenus-là. Ben, quand on écoute le Canadien que nous sommes, ou québécois, ça dépend de vos allégeances politiques. Un peu des deux. Quand on écoute le Super Bowl, on a un petit arrière-goût de ce que ça peut être. Quand on écoute sur des chaînes américaines, on a un petit goût de ce que ça peut être que d'avoir des publicités américaines sur une base quotidienne.
Mais c'est une fête de publicité, le Super Bowl. Effectivement. Ouais. Les gens en demandent.
Ce que tu dis là, à propos de ce qu'ils font les infopubs, qu'ils envoient toute leur publicité pour des choses délirantes, puis après, ils laissent comme les gens filtrer, puis choisir. Mais c'est vraiment étrange parce que c'est comme l'inverse de ce qu'on fait habituellement en publicité.
Absolument.
De comme faire des focus groups, faire des études de marché, vraiment beaucoup mettre de l'argent là-dedans pour être sûr que ça fonctionne. Là, ils sont comme, je vais envoyer tout ce que j'ai, puis... C'est comme s'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient pogner. Les gens, ils peuvent.
Ben, je peux faire une métaphore.
Élire n'importe quel produit étrange.
Si les publicitaires professionnels habituels étaient des snipers, essayaient de toucher leur cible d'un seul coup avec leur fusil très, très précis, les gens en infopub utilisent des shotguns. Donc, ils tirent avec ils mitraillent des centaines de petits plombs pour essayer d'atteindre la cible le mieux possible. Jusqu'à ce qu'on explose, exactement.
C'est drôle, mais ça me fait juste penser à comment que c'est mindless, comment qu'il y a comme pas de...
Mais en même temps, ça fonctionne.
L'intelligence derrière tout ça, un peu.
En même temps, oui, mais non.
L'intelligence
parce que
marketing,
c'est ça.
Comme...
C'est quelqu'un qui s'est dit ben, pourquoi je simplifierais pas ce procédé-là au maximum? Parce que le fondateur de Telebrand en parle lui-même. Il dit ben, je vais au centre commercial. Je vois quelqu'un qui est en train de vendre quelque chose à un kiosque. Je lui parle, j'en achète un, je le teste. Si ça marche, je le rappelle. Puis après ça, j'investis dedans. C'est aussi simple que ça, son procédé. Puis il fait la même chose avec ses employés. Justement, mon exemple des millions d'acariens que j'ai utilisé au début en m'inventant une voix de narrateur publicitaire, c'est un bon exemple du côté justement prédateur des publicités de l'infopub. Parce que je parle de Telebrand depuis tout à l'heure, mais il y a un entretien réel de l'équipe qui a été rapporté dans un article du New York Magazine. Puis là, ils sont en plein brainstorm. Puis ils parlent carrément de créer un rapprochement entre la sécurité et le produit qu'ils tentent de vendre. Donc, dans ce cas-là, ils essaient de vendre un spray anti-acarien. Et les idées qui sont lancées, je vous donne juste un exemple, là. Un des producteurs créatifs dit « Ah, on pourrait mettre l'image d'une belle chambre d'enfant, tout en ordre, tout bien propre. On voit l'enfant qui dort, on zoome sur le matelas, microscopique, puis on voit les acariens là, qui font peur, puis qui sont gros. » Fait que tu sais, on joue carrément on essaie carrément de créer de l'anxiété chez le consommateur, parce qu'après ça, les paroles qui viennent ensuite, c'est de dire « Ah oui, puis après ça, les gens vont se sentir mal quand ils vont se coucher. Ils vont dire « Ah, j'ai besoin d'enlever les acariens, parce que je me sens sale. » Genre, c'est littéralement ça que les gens se disent. Là, comme n'allez pas envoyer des menaces aux gens de Telebrand. Là. C'est juste qu'ils essayent de vendre quelque chose, puis ils utilisent des tactiques qu'ils pensent qui marchent. Là.
C'est ça. Ils vont toujours capitaliser sur qu'est-ce qui crée le sentiment de... J'ai un besoin ou une anxiété qu'il faut que je remplisse d'une manière ou d'une autre. Puis ce qui est drôle, c'est que la publicité, quand elle est bien faite avec des gros guillemets pas du tout éthiques, c'était pour justement faire en sorte que ce soit jamais vraiment comblé. Mm-hmm. Ça me fait penser à, mettons, la publicité dans l'industrie de la beauté, par exemple. On te montre que tu seras jamais aussi belle ou aussi beau que ces personnes-là. Exact, tu seras jamais aussi beau que ça, mais tu peux essayer vraiment fort. Puis vas-y, essaye, mais ça marchera pas.
Ouais.
Fait que le besoin est jamais comblé, c'est jamais terminé.
Puis l'infopub, c'est carrément une version très broche à foin de ça, parce qu'on trouve souvent que ces publicités-là sont « cheap ». On les trouve, en anglais, absurde, on dirait « corny » ou « absurde ». Tu sais, le truc pour se gratter le dessous des pieds, là, le « pedeg » ou quelque chose comme ça.
Je pense qu'on appelle ça une main. Là.
Oui.
Ça fonctionne, pas besoin d'acheter quelque chose.
Le « pedeg », c'est littéralement une râpe à dessous de pied pour enlever la corne.
Okay.
L'idée, c'est de faire sentir les gens comme si c'était pas propre d'avoir de la corne de sous les pieds, alors que ça a une utilité biologique de protéger tes pieds parce que tu marches dessus. T'sais, la corne, ça sert à ça. C'est comme les gens qui ont les mains calleuses, c'est parce qu'ils travaillent dans leurs mains
pour protéger leur peau. Ça, le poil, l'odeur corporelle.
Exact. On est tous dans ces dynamiques-là, encore avec les.
On est des êtres humains à baliser, à contrôler.
On est des sauvages.
Oui.
Justement, ben je parle de ça, on voit que c'est carrément féroce là, la publicité dans l'infopub. Puis même entre ces compagnies-là, il y a une espèce de férocité, là, on se croirait dans une espèce de jungle, parce que une compagnie va sortir le chamois, puis la semaine d'après, il y a une autre compagnie qui va sortir le Shao Bang, mettons, là. Qui c'est genre la même affaire, mais avec un autre nom, tu sais. Puis je suis sûr qu'il y a une autre version de As Seen on TV qui existe, que c'est une autre compagnie qui a breveté pour faire... Tu sais, ça finit plus, là. C'est comme des espèces de bagarres de cours d'école en plus là, qui se passent en arrière. C'est vraiment là, un marché particulier, puis j'ai été très étonné des découvertes que j'ai faites là-dessus. Mais en tout cas, on pourra dire que ces publicités-là... On a quand même tous reconnu de quoi je parlais là, quand je parlais d'infopublicité. Puis on n'écoute pas des tonnes de télévision. Ça veut dire que la publicité est quand même pas mal présente dans nos vies, au final.
Ben, elle est omniprésente, Émile. Parce que moi, c'était ma réflexion. Quand on s'est dit on parle de publicité, moi, j'essayais de trouver des sujets. Puis là, finalement, je réalisais à quel point elle est partout, la publicité. Parce que là, l'infopub est une... C'est ton exemple, Émile, c'était une des façons que la publicité se dévoile, mais il y en a tellement dans nos vies, il faut juste y penser un peu. Là. Une des façons les plus évidentes, c'est justement dans les médias, comme tu parles, l'infopub, c'est à la télévision, mais à la radio, il y en a. Quand on va au cinéma, il y a des publicités avant. Le monde virtuel a été totalement conquéri par les publicités également. Donc, avant le lancement de n'importe quelle vidéo, même à la fin ou dans le milieu, on sait que tout est ponctué de publicités. Dans les interfaces d'un site web, là, je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais dans les coins, dans certains recoins où on défile, puis à un moment donné, une publicité qui pop dans le milieu de notre article journalistique. Jean Buscade,
publicitaire.
néologismes que tu pourrais breveter. Mais les fameux les pop-up ou dans les réseaux sociaux où chaque entreprise aussi qui veut vendre un produit ont leur propre canal de communication. Fait que ça, c'est dans les médias, mais il y a d'autres véhicules de publicité qu'on pense un peu moins, mais d'autres types de médias plutôt, comme des médias écrits, les magazines, les catalogues, il y a encore ça, mais même dans des endroits, des recoins qu'on ne pense pas trop, qui s'en va jusqu'à notre domicile, on peut penser à des bulletins municipaux, mais c'est niaiseux, mais quelqu'un qui s'est amusé à regarder dans sa boîte aux lettres, voir quel genre d'informations sa municipalité lui envoie, ben, y a toujours un répertoire d'entreprises, évidemment, qui viennent de la région, mais la publicité est là. Les feuillets paroissiaux qui viennent des paroisses, ben il y a des publicités aussi. Ça peut être un peu plus axé sur côté social, mais tout le monde veut s'afficher. Tout le monde veut...
Cette messe vous est présentée par Pneus de Beauce.
J'aime toute cette notion du de Beauce. C'est très caractéristique ici. Mais les dépliants, les flyers, même les menus de restaurants dans certains restaurants cheap qui deviennent carrément une grande publicité sur laquelle on mange. Là. Mm-hmm. Vous voyez ce que je veux dire. Et dans nos domestiques,
Oui, la sphère domestique, ça me fait penser, ça m'est venu comme une pensée comme ça. Tous les produits qu'on a, mettons, alimentaires, produits d'épicerie, chaque produit est une publicité en elle-même.
Exactement.
T'sais, fait qu'on s'en sort jamais.
Mais non, jamais. On peut pas.
C'est encourageant, ça.
Mais dans un autre, ce qui vient faire une interjection entre la sphère domestique et la sphère virtuelle, c'est les courriels où on voit qu'il y a même eu un besoin de créer une catégorie spam parce que on se fait bombarder. Une chance qu'il y a un filtre, mais même il y en a qui passent à travers ça et finalement on voit les publicités dans nos courriels. Mais justement, la publicité au sens élargi, comme tu le parles, Raph, on réalise justement que chaque produit est un peu une publicité de par le branding, puis de par la vente. On veut continuer à dire aux gens, acheter ce produit-là, continuer ou remarquer à quel point il est incroyable malgré qu'on l'a dans les mains. C'est jusqu'à ce que ça soit acheté, la vente n'est jamais totalement finie. Et on veut que quand ça reste dans le domicile, ben, qu'on reconnaisse toute la bouteille de ketchup, puis elle soit uniforme pour que quand tu veux te l'acheter, tu vas savoir la reconnaître tout de suite.
Exact. Ça devient une partie de notre vie très privée, de notre enfance, de nos souvenirs.
Oui,
de notre famille.
C'est partout. Et dans la sphère publique, justement, il y a aussi, mais tu sais, toutes les bâtisses, ils ont leur façade et ils doivent s'afficher. C'est aussi « nous sommes telle chose ». C'est pas une publicité en tant que telle, mais il y a quand même cette notion de « dans l'espace public, tout le monde doit habiter une marque de commerce et l'afficher très clairement ».
C'est ça.
On parlait que c'était banal, mais il faut. T'as pas le choix. Là. Tu veux pas penser à ne pas t'afficher. Là. Tu veux pas juste un logement, il faut que tu ailles ton logo ou quoi que ce soit. Et c'est rendu qu'il y a les affiches publicitaires sur les voitures, tout ça. Et l'avènement des produits dérivés qui me font très rire, là, mais parce que les produits dérivés, mettons que vous travaillez pour une compagnie, on sait que tous les articles du quotidien qu'on a déjà beaucoup, ben, sont tous disponibles, mais avec l'effigie de la compagnie dans laquelle on travaille. Donc,
on devient une publicité ambulante.
Exactement. Il y a un peu un thinking de ça, de « Ah, mon Dieu, mais tu vas arriver avec une bouteille d'eau de
Canam! De...
ça donne que moi...
Pour pas le nommer.
Ça donne que je viens de là. Mais c'est ça. Mais c'est partout, tout le monde utilise ces stratégies-là. Et c'est pour montrer à quel point c'est omniprésent là, dans toutes les sphères de la publicité, dans toutes les sphères de la vie, dans le fond. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces différents espaces-là, le virtuel, le domestique ou même l'espace public, c'est qu'il y a une compétition pour l'attention de chacun. Et il y a notamment une compétition entre les publicités contre les autres publicités, donc entre les différents produits, mais aussi avec toutes les autres sources d'informations. Donc, quand on y pense, par exemple, quand on est dans une ville puis qu'il y a des grosses pancartes publicitaires qui nous disent « acheter telle chose », cette source d'informations-là veut notre attention au même titre qu'un panneau de signalisation routière qui te dit que la limite est là.
C'est vrai, ça.
Non, donc, on passe là, puis qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? Donc, dans les villes, il y a quand même de la législation autour de l'affichage, tu sais, il y a des pancartes, il y a des limites de comment on peut s'afficher, mais quand on y pense, il y a quand même souvent une compétition de l'information qui est importante.
Vitale, dans certains cas.
Est vitale avec les choses qui veulent nous dire mais acheter ça dans un contexte qu'on n'a pas de besoin. Et une chance que le cerveau humain est une bonne machine à filtre parce qu'on en reçoit beaucoup de l'information dans une vie.
Imagine si on n'était pas capable de hiérarchiser l'information, à quel point qu'on se mettrait en péril dans cette situation-là précise ou en toutes sortes de problèmes, de dangers.
Oui, et en plus, c'est heureusement que la publicité, il y a quelque chose de magnifique, c'est qu'on dirait qu'on va développer des mécanismes de défense pour ne pas les remarquer. Parce qu'imaginez, j'imaginais que c'est un scénario catastrophique, mais que la publicité ait la même capacité de capter notre attention qu'un petit chien cute dans la rue, là. Comment que ça serait problématique? Parce que moi, j'y regarde les petits chiens cute qui passent dans la rue. Là,
à quand les petits chiens cute robots qui ont
des publicités?
Ouais.
Mais c'est ça, au moins, on a développé des mécanismes de défense. Là, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai rendu très, très mécanique et automatique. Je connais les endroits où faire passer l'annonce. Et je sais où ne pas regarder.
Ouais.
C'est plutôt inconscient, je dirais, mais comme j'ai regardé Facebook tout à l'heure, mais en haut à droite, il y a une section commandité. Je ne regarde jamais là.
Ouais.
Et quand une recherche Google, c'est souvent commandité dans les premières recherches. Moi, je m'en vais dans les trois. J'en skip trois avant de pogner la...
On... devient consciemment un angle mort, comme je disais au début, exact.
Et même dans les à la télévision, il y a des publicités. Moi, je m'en vais faire autre chose le temps de la pause publicitaire. C'est une pause publicitaire, c'est la pause toilette. Là, on ne va pas regarder la publicité, on s'en va aux toilettes.
Ouais.
Et, ou sinon, on regarde son sel, mais on trouve des mécanismes de défense. Mais ce qui est intéressant, puis je vais terminer là-dessus, c'est des mécanismes de défense, ça reste qu'ils sont... Pour qu'il y ait une défense, il faut qu'il y ait une certaine attaque. Donc, ces informations-là, ces publicités-là, qui nous, malgré que des fois le filtre se fait consciemment ou inconsciemment, bien, le processus de filtrage doit être fait. Et là, il y a des questionnements par rapport à est-ce qu'on est surchargé d'informations? Est-ce que notre cerveau est tout le temps en train de se défendre contre la charge d'informations? Est-ce que ça a un impact sur notre santé mentale? Je fais juste réfléchir à ça en donnant l'exemple de lorsqu'on se retrouve dans un espace où qu'on n'a pas cette surcharge d'informations, par exemple, être en plein air, en forêt, et que là, on n'a pas à fouiller pour voir toutes les stimuli. Il y a quelque chose de... Il y a un des processus qu'on sait, ça nous calme. Tu sais, être en plein air, en forêt, ça nous ressource.
Elle nous reconnecte.
Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose de... Pour une fois, le cerveau, il fait « Ah, on n'est pas en train d'essayer de me vendre quelque chose. »
C'est ça.
Il y a vraiment le travail que des fois, on ne réalise pas, qui est en train de filtrer puis de dire « Ça, je ne veux pas le voir, je ne veux pas le voir, je n'en ai pas de besoin, je filtre. » Est-ce que quand ce n'est pas en train de s'opérer, est-ce qu'on est en train de regagner de l'énergie par rapport à ça?
Exact.
Je vous laisse cette réflexion-là, je ne sais pas plus.
Je suis très d'accord avec ça. Comme faut qu'on se déconnecte consciemment pour ne pas être assailli d'informations. Quand on n'est pas attaqué, ben là, on se reconnecte à nous-mêmes.
Ben, en tout cas, là, on a vraiment prouvé le point que la publicité, en tout cas, on n'a pas vraiment de repos à part quand on va se cacher au fond du bois à regarder les écureuils.
Même dormir.
Oui, dormir, oui. On n'a pas encore de publicité dans nos rêves.
Quand on n'est pas conscient, c'est le fun, on n'a pas de pub.
Oui, exact. Ce qu'on entend au moment où je parle, c'est « Please use this song » de John Lajoie qui parle justement... Je vous invite à l'écouter, c'est très, très drôle. Là. Ça parle justement de la chanson dans les publicités. Et justement, la publicité, ben, autant elle peut être créative et efficace qu'elle peut être invasive et trompeuse, comme on a pu le voir dans cette émission. Mais dans tous les cas, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens qui sont déployés pour créer des innombrables publicités qui nous entourent. Donc la question est, qui sait où on pourra voir de la pub dans les prochaines années?
Dans nos rêves.
Sur des petits chiens qui...
donc, on a un semblant de réponse ici de mes collègues. C'était le 5e épisode du Cabinet des banalités sur l'univers intriguant de la publicité. On va se retrouver lundi prochain à 19h30 pour parler de quoi? De l'hygiène sur les... Peut-être. C'est en fin de journée, j'ai pas encore pris ma douche.
Tu devrais utiliser le savon Ivory.
Ah! Peut-être pour en faire une sculpture. Donc, on va pouvoir écouter cet épisode-là lundi prochain, 19h30, aux ondes de Chiz 94.3. D'ici là, bonne semaine. Life insurance, medical insurance, cat insurance, 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 financial institutions, the one that took my house. If you use this song, maybe we can work something out. Any product, any service, this is the right song. Your target audience will be singing and dancing along.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
Cinéma, showbiz, les nouvelles internationales et surtout la bonne musique tropicale. Samedi, dimanche, 13h, Radio Futura 94.3 FM, Québec, Canada. Partout au monde, www.chiz.ca. Digan lo que digan, somos la numéro uno.
Veuillez prendre note que l'émission qui suit a été enregistrée à une date antérieure à aujourd'hui. Il se peut que certaines informations ne soient plus à jour. Merci d'avoir choisi Chiz 94.3.
Quoi de neuf tout le monde, c'est Damien pour le Beatnik Show sur les ondes du 96.5 Bas-Saint-Laurent et du 94.3 à Québec. Boum!
Encore une fois, j'ai une autre raison pour aller chercher de la boisson autour de moi. Les poids sont lourds, j'ai jamais le choix de faire le détour. C'est contre moi-même que je joue la game pour toi. Chaque soir, c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à vie de bonne. Ça commence aujourd'hui, promis, j'arrête. Ça suffit, je veux pas finir comme un abruti qui a complètement perdu l'appétit. Parce que c'est la bière qui le nourrit. Son système est entièrement pourri. Tu lui donnes quelque chose dans ta bouffée, puis c'est la couture qui te le vomit. Non, pas avec moi, c'est pas comme ça que ça va se passer. Je vais pas me laisser aller, c'est assez. L'habitude, je vais casser les morts pour que j'aille au boulot. Puis après, c'est pas question de goulot. Ça pouvait pas continuer comme ça. Faut la bec, j'arrête un jour ou l'autre. Ouais, j'ai réfléchi. C'est certain que je vais pas fléchir. Il paraît que quand t'arrêtes de boire le soir, c'est juste au début que ça déchire. Encore une autre raison pour aller chercher de la boisson autour de moi. Les poissons sont lourds, j'ai jamais le choix de faire le détour. C'est contre moi-même que je joue la game pour toi. Chaque soir c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à vie de bonne.
C'est ce qu'on a arraché aujourd'hui, gros, man.
Wow, la journée a été dure. Un soir j'ai le goût de relaxer, c'est sûr. J'ai le goût de m'asseoir dans le sofa, mais j'ai pas le goût d'endurer ma cure. Non, faut que je reste pur, que je reste enfermé en quatre murs. Si je sors dehors, il fait trop chaud, ça me donne une raison de boire, je te jure.
Damien, qu'est-ce que tu fous? Ramène-toi là au parc, on s'en va escalier une grosse boue.
Non mais t'es fou, je veux dire ouais vous êtes où? Bougez pas, je m'en vais vous rejoindre, j'en bois juste une petite puis c'est tout.
Encore une fois, j'ai une autre raison pour aller chercher de la boisson autour de moi. Les poids sont lourds, j'ai jamais le choix de faire le détour. C'est contre moi-même que je joue la game pour toi. Chaque soir c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à vie de bonne.
Ça y est, je suis au dépanneur, en train de repartir à neuf. Je sais pas quoi choisir d'ailleurs. Je vais quand même pas mentir à 950 millilitres. Je me sens pas coupable. Un point de suite, c'est tellement plus frappe. 2 piastres de plus, je me tape un 6 pâtes. Je vais sur 2 jours, ça va être plus durable. Les médecins disent qu'une bière par jour, c'est bon pour la santé, je te jure. Ouais, mais disent pas quel gros plan. Je prends pas de chance, je vais avec la folie pour être sûr. Même si je suis dans le fond tantôt, il n'en restera plus. Au moins, je serai venu, j'aurai vu, puis le reste, ben, je l'aurai vu. Après tout, il y a juste quand je me lève le matin que je l'aurai plus. Je bois jamais jusqu'à être sous, non, moi, c'est sa semaine entière que ça se distribue.
Encore une fois, j'ai une autre raison pour aller chercher de la boisson autour de moi. Les poissons sont lourds, j'ai jamais le choix de faire les détours. C'est contre moi-même que je joue la game pour toi. Chaque soir, c'est le même frame. Faut que je mette fin au problème, mais c'est le remède à vie de bonne.
Oh, fuck, on est mardi, je suis packé, puis je travaille de...